Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Donc, comme chaque mercredi, à partir de 16h jusqu'à 16h30, vous retrouvez le magazine Campus Lille Info, un magazine consacré à l'actualité culturelle régionale. Un peu de musique, on se retrouve avec notre invité. Aujourd'hui, dans cette émission, eh bien, nous allons aborder un sujet qui, bien sûr, intéresse tout le monde ou qui pourrait intéresser tout le monde. Il s'agit des cancers et notamment de ces cancers qui, très rapidement, se développent dans nos corps ou dans le corps même des animaux. Pourquoi pas? On va traiter de ce sujet donc avec Madame Isabelle Fournier, qui est professeure au laboratoire PRISM. Bonjour, Madame Fournier.
Bonjour.
On parle beaucoup de cancer, on parle aussi de téléthon, de choses comme ça, où on évoque des problématiques de santé. On a l'impression que les gens se mobilisent quand même, et puis on ne sait pas toujours, dans la réalité, si on est en voie de progrès important ou si on stagne encore un peu, et quels seraient les blocages de cette recherche pour arriver à des résultats, je vais dire flagrant, quitte à résoudre complètement le problème des cancers. Ce serait quand même le rêve pour des vœux pour 2019, par exemple.
Tout à fait. Alors évidemment, on est fort heureusement en constant progrès sur la prise en charge des cancers. Après, évidemment, il y a des cancers pour lesquels les thérapies ont plus rapidement évolué, comme les leucémies, par exemple. Il y a des cancers qui restent plus compliqués à traiter et pour lesquels la mortalité et la médiane de survie est beaucoup plus triste, comme par exemple les cancers du cerveau ou les cancers du pancréas.
On a l'impression qu'il y a beaucoup de types de cancers. Qu'est-ce qui les, on va dire, qui les caractérise de manière commune? Quelle est la caractéristique commune des cancers? Comment on pourrait les définir?
Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'évidemment, la manifestation, c'est toujours une prolifération aberrante des cellules. Mais après, quant à l'origine de ces cancers, ils peuvent avoir des origines différentes et du coup des caractéristiques différentes qui en rendent le traitement plus complexe dans la mesure où il est compliqué d'avoir une seule prise en charge ou un seul traitement pour un seul type, enfin pour tous les types de cancers.
Alors souvent, les cancers sont soignés après détection, et cette détection-là, elle suppose d'avoir vu un spécialiste qui peut déterminer déjà que c'est un cancer, quel type de cancer, et au préalable, de ressentir des choses, ou bien on peut passer à côté d'un cancer pendant des années avant de se rendre compte qu'on est quand même bien atteint.
Alors effectivement, malheureusement, pour certains cancers plus particulièrement, il est parfois plus compliqué d'avoir des signes avant-coureurs. Et il est possible, effectivement, parfois, de passer à côté d'un cancer qui s'est développé. C'est souvent le cas, par exemple, du cancer de l'ovaire pour les femmes, qui est souvent malheureusement diagnostiqué à des stades tardifs pour lesquels la prise en charge et les traitements ne sont plus forcément toujours très, très efficaces. Donc, il peut aussi y avoir des formes très agressives de cancer qui se développent très rapidement, et donc malgré parfois le fait que les patientes soient soumises à des examens annuels, il est possible que entre deux examens annuels, des cancers très agressifs se développent.
J'ai lu aussi, à confirmer ce qu'il y a dans la presse maintenant, on se méfie, que 80% des personnes de 80 ans ont potentiellement, je parle des hommes, un cancer de la prostate.
Alors, il est sûr que les cancers sont plutôt une maladie naturellement qui se développe avec l'âge. Donc, qui sont effectivement, c'est une maladie qui est largement plus prégnante normalement chez les personnes au-delà de 60 ans. Et effectivement, plus les personnes vieillissent, plus le risque devient important. Mmh. Et donc, effectivement, en particulier, le cancer de la prostate, au-delà d'un certain âge, a une incidence effectivement très importante. Donc, c'est quelque part une maladie qui apparaît naturellement avec le vieillissement et qui, de ce fait, les populations maintenant vivant plus âgées, on a aussi une incidence chez les personnes âgées plus forte des cancers.
Et bien sûr, après 80 ans, si on s'en aperçoit, c'est un peu tard et ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire des chimios qui détruisent aussi pas mal.
Après, effectivement, plus la personne a un âge avancé, plus les prises en charge sont compliquées dans la mesure où on sait par exemple l'importance éventuellement du système immunitaire dans la réponse également aux thérapies, et de ce fait les patients âgés sont en moins bonne forme physique en général, leur système immunitaire est aussi en général déjà un petit peu déclinant, donc effectivement les choses deviennent aussi plus compliquées pour les traitements.
Oui, et peut-être aussi que les cancers à cet âge-là évoluent moins vite.
Ça, je...
On ne sait pas.
On ne sait pas forcément. Je pense que des formes de cancer lentes et agressives, on en trouve à tous les âges.
Je pensais qu'avec le vieillissement, tout se ralentissait, dont les cancers. Non, ils sont plus résistants que ça.
Non, et je pense qu'il n'y a pas forcément de relation directe.
D'accord. Donc votre laboratoire qui s'appelle PRISM, hein, on peut peut-être le définir et puis voir le contexte de apostrophe dreams, donc des rêves peut-être, hein, quel rêve.
Alors tout à fait, donc le laboratoire PRISM pour protéomique, réponse inflammatoire et spectrométrie de masse, donc est un laboratoire qui est affilié à l'Institut Technologie pour la Santé de l'INSERM, et dont les recherches reposent sur deux axes principaux qui sont le développement, l'innovation technologique d'une part et l'innovation thérapeutique d'autre part. Évidemment dans la recherche d'une activité translationnelle vers la clinique pour obtenir des outils, le développement d'outils de diagnostic ou de thérapie innovante.
Donc mettre en commun des moyens pour réussir à accélérer la recherche, c'est ça votre projet?
Donc effectivement, le projet notamment de la structure ODRIMS, qui est un laboratoire commun entre PRISM et la société privée OnCOVID Clinical Research, OCR, est de mettre en moyen des communs justement pour faire avancer plus vite les projets de recherche. Donc en particulier, la société OnCOVID Clinical Research est une société qui a des activités très spécifiques et qui permet de réaliser des essais cliniques chez des patients animaux de compagnie, notamment, et en particulier chez les patients chiens, dans le but, si ces essais cliniques fonctionnent chez les patients chiens, de pouvoir les translater plus rapidement chez l'homme. Et il est important de mentionner que l'activité d'OCR est dans le domaine de la cancérologie et que les patients animaux développent des cancers spontanés comme les humains, et donc des cancers qui sont très proches d'un point de vue origine et mécanisme et qui donc font d'excellents premiers patients à soigner pour chercher de nouvelles thérapies.
Donc votre solution commune, structure, c'est une réponse où chacun se complète et peut permettre à chacun d'aller plus loin.
Tout à fait. Et donc, pour avoir une synergie plus importante, dans le cadre de ce laboratoire commun ODRIPS, on a notamment souhaité rénover une partie de nos locaux au sein du bâtiment SN3 pour pouvoir directement accueillir les personnels de la société OCR directement dans nos locaux, afin d'être vraiment au plus près et en synergie et pouvoir discuter en permanence et faire avancer les thématiques de recherche.
Ce genre de collaboration, je ne vais pas dire fusion, puisque chacun reste quand même propriétaire de ses murs, d'une certaine manière, est-ce que c'est fréquent, notamment à l'Université de Lille?
Alors, je pense que au cours des 10 dernières années, le concept de laboratoire commun n'était pas très fréquent dans le périmètre de la région Nord et à l'Université de Lille en particulier. Et c'est des choses qui ont notamment vu le jour grâce à l'aide de financement portée par le Conseil régional, donc qui a lui-même souhaité favoriser l'émergence de ce type de structure. Donc, dans le cas de PRISM et d'OCR, il y avait déjà une activité collaborative commune. qui avait été entamé au travers d'un projet d'excellence qui avait été obtenu en région, qui est le projet CIRIC Oncolil, qui était financé par l'INCa, l'INSERM et la DGOS. Et donc cette collaboration a pu prendre la forme d'un vrai laboratoire commun grâce à un appel à projet du Conseil régional.
Est-ce que vous partagez des doctorants, par exemple ?
Alors, tout à fait. Donc, on a deux doctorants qui sont affectés au projet. Une doctorante qui est financée pour partie par l'Université de Lille, pour partie par la société OCR et pour partie par le Conseil régional. Et on a une autre doctorante qui, elle, est financée pour partie entre le Conseil régional et pour partie par l'INSA.
Ce projet global, est-ce qu'il est aussi financé par l'Europe ou il est complètement indépendant, lié, on va dire, à une volonté politique de la région ?
Alors, à l'heure actuelle, le projet est financé principalement par donc l'appel à projet du Conseil régional. Mais maintenant que la collaboration s'est renforcée au travers de la création du laboratoire commun, une des choses envisagées, effectivement, c'est d'aller maintenant chercher des financements plus conséquents au niveau européen, dans les projets H2020.
En quoi votre regroupement est-il par rapport à la recherche originale et qu'est-ce qu'il apporte ? À quel échelon, je veux dire, régional, national, international ?
Alors, il y a deux particularités. Il y a une particularité qui est liée à la société OCR par elle-même, qui est elle-même de s'adosser sur la clinique Oncovet, qui est au sein du campus, donc qui est une clinique spécialisée dans le domaine de l'oncologie vétérinaire, qui fait partie des deux seules cliniques françaises spécialisées dans ce domaine, et qui a fait récemment en plus l'acquisition d'un bunker de radiothérapie pour les patients à niveau, donc qui en fait d'elle une clinique assez unique à l'échelle européenne. Et donc la force est aussi pour OCR de s'adosser à la clinique Oncovet pour pouvoir mener des essais cliniques de thérapie innovante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Beaucoup de recherches dans le domaine de la cancérologie se font encore à l'heure actuelle sur des modèles. Donc pas sur des patients, mais sur des modèles souris, le plus souvent. Et malheureusement, il y a souvent un échec. Les thérapies fonctionnent sur les modèles souris, mais ne fonctionnent plus, parfois, passer à l'échelle humaine. Et effectivement, l'intérêt de pouvoir directement faire des essais sur des patients chiens avec des pathologies plus proches de l'homme, c'est effectivement d'avoir moins d'échecs et une capacité d'aller plus rapidement vers les traitements chez l'homme. Donc ça, c'est une particularité parce qu'il y a peu de sociétés qui ont ces modèles et qui permettent l'accès à des patients animaux. Avec, on l'espère, si les thérapies fonctionnent, un bénéfice à la fois pour le patient animal et pour le patient humain. Et la deuxième particularité, c'est pour le laboratoire PRISM d'avoir développé des technologies qui sont uniques au niveau international. Dont une technologie qui a pour vocation de réaliser du diagnostic in vivo en temps réel au bloc opératoire chez les patients.
Donc vous parliez d'animaux, donc les chiens étant plus proches de l'homme, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a encore d'autres animaux qui pourraient être encore plus semblables d'un point de vue morphologique ou d'un point de vue système par rapport, bien sûr, aux problèmes cancéreux ?
Alors après, je dirais que c'est vrai que beaucoup d'essais se font chez les chiens, mais pas forcément parce que les pathologies cancer chez les chiens sont plus proches de l'humain que les pathologies cancer chez les chats, par exemple. Après, il y a aussi une question de recrutement de patients sur certaines pathologies. Et par exemple, dans le cas des tumeurs du cerveau, il y a des espèces de chiens, des races de chiens qui développent de façon spontanée plus facilement des cancers du cerveau, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des fois, on fait plutôt les essais chez certains chiens, ou que voilà, plutôt que des chats, parce qu'il y a des prévalences de certains cancers chez certaines races de chiens.
Donc souvent, on attribue les cancers pour partie à des causes externes, je vais dire tabac, alcool, etc. Pour les chiens, c'est pas forcément le cas.
Non, à moins qu'ils subissent un tabagisme passif. Mais effectivement, dans le cas des patients chiens, effectivement, ces deux facteurs d'incidence importante dans le cas des cancers humains, effectivement, ne sont pas forcément à mettre en cause. Après, il y a effectivement d'autres facteurs extérieurs qui peuvent aussi être à l'origine. On sait que pour certains cancers, il y a maintenant, on le sait, des étiologies virales importantes. Donc des virus qui peuvent effectivement affecter les hommes comme les patients animaux. Hein. Donc on le voit par exemple dans le cas du cancer du foie. Il y a une partie importante de ces cancers du foie qui sont liés à des étiologies virales. Après, il peut y avoir d'autres facteurs environnementaux pour lesquels les causes sont parfois pas peuvent être soupçonnées, mais pas forcément avérées. Et là, on peut s'affronter aussi à des problématiques compliquées dans la mesure où on ne peut pas exclure que les pesticides n'aient pas d'incidence sur le développement des cancers. Mais après, voilà, on arrive sur des terrains où on sait très bien qu'on a des lobbies en face qui... Voilà, donc là, ça reste difficile des fois de faire des preuves de certaines choses.
Est-ce que la pollution atmosphérique, puisque on est quand même dans le sujet actuellement, hein, a une incidence sur les cancers en général, que ce soit les chiens, les chats ou peu importe?
Alors effectivement, la pollution aussi est une cause externe environnementale qui n'est pas à exclure, en particulier pour toutes les pathologies des voies respiratoires. On sait que les nanoparticules, effectivement, peuvent être une source d'irritation. Oui, il y a tout un tas de facteurs environnementaux qui peuvent contribuer au développement des cancers, à la fois chez les hommes et leurs amis canins.
Donc Isabelle Fournier, je rappelle que vous êtes donc professeure au laboratoire PRISM. Est-ce que vous avez également des étudiants?
Oui, tout à fait. Nous avons des étudiants au laboratoire de différents niveaux. Donc, on a des étudiants qui sont en thèse. Et puis, on accueille tous les ans au laboratoire des étudiants de deuxième année de master, en général sur une période de 6 mois, voire un peu plus. Et puis, on accueille aussi des étudiants de master 1 pour des durées plus courtes et aussi des L3 qui ont des stages à peu près d'environ un mois en général.
Donc la recherche sur le cancer, elle paraît aux yeux du public assez prioritaire. Est-ce que le nombre d'étudiants ou de personnes, de personnel même affecté à la recherche, aux solutions, est suffisant?
Alors après, on peut toujours effectivement dire qu'on pourrait être plus et que ça ferait avancer les projets plus vite. Mais après, on ne peut pas non plus se plaindre totalement et dire qu'on manque totalement de moyens humains. On a quand même des équipes avec un nombre de permanents et d'étudiants qui est quand même raisonnable. Après, c'est sûr qu'on pourrait toujours se dire qu'on est plus. Après, on pourrait toujours aussi dire qu'on pourrait avoir plus de financement, accès à des financements plus rapidement. Mais je pense qu'une des choses importantes n'est pas non plus toujours le nombre de personnes. C'est la capacité à avoir des équipes complémentaires, interdisciplinaires. On essaye toujours, autour des problématiques, d'avoir des scientifiques et des cliniciens de différentes origines. Donc, on a au laboratoire la chance d'avoir des gens qui sont biologistes, on a des chimistes. On travaille aussi avec des collègues physiciens et des bioinformaticiens. Et puis, on a aussi des cliniciens de divers horizons, comme des chirurgiens, des pathologistes et des oncologues. Et je pense que c'est parfois plus la complémentarité et l'entente des gens et la volonté des gens autour d'un sujet de faire avancer les problématiques que des fois peut-être le nombre de personnes autour des projets de recherche.
Est-ce que les filières de formation en région sont suffisantes en termes de nombre d'étudiants pour amener la qualité, pour réaliser les travaux que vous réalisez? Ou est-ce que vous devez aller très loin pour chercher des personnes compétentes?
Non, on arrive à recruter la plupart des étudiants à partir des filières de formation initiale de l'université. Après, il n'est pas exclu que lorsqu'on a besoin vraiment d'un profil très particulier. Je dirais que c'est parfois plutôt hors disciplinaire de la biologie, par exemple, qu'il n'est pas intéressant d'aller piocher éventuellement ailleurs. Mais par exemple, en termes de biologistes, on a des formations de qualité sur l'université et la plupart des étudiants qui font leur recherche au laboratoire sont issus des cursus de l'Université de Lille.
Est-ce que vous avez des temps de réflexion, d'analyse, de mise en perspective en commun avec d'autres scientifiques? Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont en région, peut-être, qui vont se faire?
Alors, on a toujours dans les projets de recherche beaucoup de collaborations. Et on essaye toujours de garder beaucoup de contacts et de discussions. Parce qu'effectivement, autour de ces questions cliniques, comme je disais, qui font appel quand même à beaucoup de disciplines différentes, il est quand même difficile d'avoir au sein du laboratoire toutes les spécialités. Et on est régulièrement amené à discuter. Notamment, on essaye beaucoup de discuter avec des bioinformaticiens pour le développement d'outils de traitement de données, de ce qu'on appelle la big data. Donc le développement aussi d'outils innovants, d'algorithmes. Pourquoi pas d'aller chercher des personnes compétentes dans les algorithmes de deep learning. Donc ça, c'est clairement des choses qu'on cherche. Et on a en permanence des collaborations dans la région, bien sûr, mais aussi à l'extérieur de la région. On a notamment, dans le cadre de certains des projets qui sont dans le périmètre d'Audris, une collaboration avec un collègue qui est professeur à Imperial College of London, le professeur Takat. Et évidemment, toutes ces collaborations sont des apports en plus. Et ça permet d'avoir toujours des visions différentes sur les projets et de faire avancer les projets.
Alors, bientôt Noël, qu'est-ce que vous souhaitez que le Père Noël passe dans sa petite hotte ?
C'est une bonne, question. Je pense que ce qu'on peut souhaiter le plus, c'est, de garder effectivement une possibilité de faire de la recherche fondamentale. Parce que bien que nos recherches aient une vocation à s'appliquer à des problématiques qui sont concrètes et réelles dans la vie des gens tous les jours, on fait toujours des allers-retours entre des recherches très appliquées en clinique et des recherches plus fondamentales pour aller chercher des solutions innovantes à chaque fois. Donc je dirais que peut-être une des choses qu'on pourrait souhaiter, c'est que effectivement les institutions sachent encore garder une capacité à financer de la recherche plus fondamental. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir toujours, je crois qu'on en a un bon exemple ici, des jeunes motivés et qui ont envie de faire de la recherche dans ces domaines, parce que malgré tout, on a quand même conscience de faire un beau métier, parce que on a des problématiques intéressantes et on sait que si on avance, on aide des gens et je pense qu'on a beaucoup de chance, donc...
Alors, on a beaucoup déploré le manque de reconnaissance pour les chercheurs femmes, notamment à travers des prix Nobel et autres choses. Là, vous êtes ici représentant de votre labo. On a autour de la table aussi un équilibre parfait entre... Il y a trois chercheuses potentielles et un chercheur. Est-ce qu'on est sur une courbe d'inversion ?
Une courbe d'inversion, je sais pas, mais je... Je pense que les femmes ont de plus en plus, et c'est fort heureux, de place en sciences et à tous les postes. Et
en direction aussi.
En direction aussi. Ça va venir, hein. On ne peut pas nier que si on regarde les statistiques, il y a probablement encore un petit peu moins de femmes que d'hommes à des postes plus importants de responsabilité. Mais je pense que c'est des choses qui changent, qui évoluent dans le bon sens. Et je pense qu'à ce titre-là, en France... Je pense qu'on a quand même beaucoup de chance, si je compare par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Et par contre, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans des travers inverses, qui soient de voir systématiquement plus regarder les gens à leur spécialisation et à leur adéquation par rapport à un poste, et systématiquement non plus tomber dans des travers inverses.
Alors, ce n'est pas du tout pour moi l'intention de tomber dans des travers inverses et que cette inflexion soit trop artificielle. C'est juste dire, qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux demoiselles qui souhaitent s'investir dans ce domaine ? Est-ce qu'on peut leur dire que c'est un métier passionnant et puis qu'elles ont un avenir, qu'elles auraient un avenir ?
Alors, c'est sûr, c'est un métier passionnant et elles ont un avenir. Et c'est des métiers où je pense que les femmes ont autant de succès que les hommes. Et si peut-être parfois elles n'en ont pas autant, c'est parce qu'elles elles se croient peut-être moins capables au départ. Et je dirais, c'est peut-être sur l'éducation, il y a toujours peut-être un retrait des jeunes femmes qui ont toujours l'impression d'être moins compétentes que leurs homologues masculins pour des postes de compétences ou de responsabilités similaires. Donc peut-être qu'elles s'auto-censurent elles-mêmes parce qu'elles ont les compétences tout autant que voilà. Je pense qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, en particulier au niveau du système académique, je pense qu'il y a sans difficulté de quoi pour une femme faire sa carrière et atteindre un niveau de responsabilité enfin, qu'elle souhaite obtenir.
Mais voilà de belles perspectives, alors, finalement, pour la recherche et pour les solutions à ce fléau qu'est le cancer et pour lequel on progresse, mais bien sûr, on souhaite que ça aille toujours plus vite dans le bon sens. Merci Isabelle Fournier du laboratoire PRISM et bon vent.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.